Frères et sœurs, les lectures de ce jour nous rappellent un point que parfois nous avons tendance à mettre un peu de côté, parce qu'il n'est pas très tendance, il n'est pas très à la mode, c'est celui de ce qu'on appelle la correction fraternelle. C'est celui qui consiste à se dire les choses aussi quand ça ne va pas, aussi quand il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui blesse, quelque chose qui ne permet pas la cohésion et l'unité. La correction fraternelle, saint Paul en parle d'ailleurs dans l'une de ses lectures, en rappelant l'importance de se corriger les uns les autres. Et ce n'est pas forcément facile, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, où on met comme valeur suprême et première et dernière la tolérance, on considère que dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bon ou est mauvais pour toi ou pour les autres ou est dangereux ou est risqué, on considère que ça va contre sa liberté. Sauf que la vraie liberté, c'est pas faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est faire ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les autres. La vraie liberté, c'est pas de dire à quelqu'un « tu peux rouler comme tu veux sur la route à n'importe quelle vitesse ». La vraie liberté, c'est de comprendre que je suis libre, oui, d'aller vite, mais comme dit saint Paul, je peux tout faire, mais tout ne m'est pas profitable, tout n'est pas souhaitable. Et c'est vrai que les chrétiens, par rapport à beaucoup de religions, ont finalement peu de règles précises à respecter. C'est pas la règle qui est première chez nous, mais la règle nous aide à viser ce qui est supérieur, c'est-à-dire la charité, au sens l'agapé, le don de soi, l'amour vrai envers Dieu et envers les autres. Les règles ne sont pas et ne seront jamais une fin en soi. Les règles sont là pour nous aider à grandir en humanité et en sainteté. Et si parfois nous pensons que, en respectant les règles, nous sommes des bons chrétiens, eh bien, nous sommes décalés en deçà de ce que le Seigneur attend de nous. Mais les règles, en même temps, sont là pour nous aider précisément à nous structurer. Un peu comme dans une famille, des parents vont dire aux enfants « voilà comment on va s'organiser pour les tâches ménagères, pour le coucher, le soir, etc. » Il faut des règles, sinon ça part dans tous les sens. On connaît ça dans les entreprises, on connaît ça en cette période de rentrée scolaire dans les écoles, où il y a un règlement à suivre, parce que le règlement va permettre de vivre ensemble dans la cohésion, d'être d'accord pour respecter un périmètre précis. Et donc nous ne sommes pas une religion de la règle, nous sommes une religion de la vraie liberté, la liberté intérieure, puisque le Christ, par sa mort sur la croix, nous a définitivement libérés du péché. Mais après, il faut qu'on l'applique dans notre vie. Et ça, ça prend du temps. Ça prendra toute une existence. Donc, premier élément, donc, savoir comprendre, savoir intégrer davantage la place de la règle dans notre vie. Comme dans le dialogue des Carmélites de Bernanos, à un moment, l'une des sœurs dit « ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle ». Dans le sens, régulièrement, on se dit « tiens, au fait, par rapport à ce qui nous est demandé, où est-ce qu'on en est ?» Ça permet de voir un peu comment on avance. Et donc la correction fraternelle, ensuite, est là pour vouloir le bien de l'autre, vouloir que l'autre puisse grandir, puisse se reprendre. Et la correction, on connaît ça tous les jours. Je vais vous faire un petit aveu, j'ai reçu cette semaine un PV. Vous savez, cette lettre qu'on maudit chaque fois qu'on la trouve dans notre boîte aux lettres, chaque fois, lorsqu'on la trouve éventuellement dans notre boîte aux lettres, en se disant « mince, tel jour, ah oui, je me souviens, j'ai été flashé ». Et on n'aime pas ça. Mais en même temps, ça corrige. Et on fera, et je ferai, je pense, j'espère, davantage attention les prochaines fois, pas seulement en passant devant le radar. Donc on a besoin de ça, on le sait. Si pour nos impôts, pour ceux qui en paient, il n'y avait pas une majoration lorsqu'on ne paie pas au bon moment, évidemment que on laisserait libre cours à notre créativité et puis ce serait très élastique et peu seraient ceux qui paieraient en temps et en heure. Donc vous voyez qu'on a besoin d'être corrigé. Mais dans la vie chrétienne, ça va plus loin que tout cela. Dans la vie chrétienne, le Seigneur nous rappelle l'importance de vivre ce qu'on appelle finalement la communion. La communion, c'est comme une union. Être unis les uns et les autres. Pas parce qu'on est pareil, on ne sera jamais pareil. On n'est pas des clones, on n'est pas des clones. Mais se mettre d'accord, se poser quand il y a de la tension, quand il y a des désaccords, quand il y a des choses parfois vraiment qui sont antagonistes, se poser, se mettre d'accord pour essayer d'avancer. Vous savez, dans certaines spiritualités conjugales, je pense aux équipes Notre-Dame, on parle du devoir de s'asseoir pour un couple, régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, le devoir de s'asseoir. C'est-à-dire, on laisse les préoccupations quotidiennes, on laisse les enfants, et on se pose, toi et moi, moi et toi. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis s'il y a un petit abcès, on le crève. L'autre jour, tu m'as dit ça. L'autre jour, tu ne m'as pas dit ça. Et c'était mon anniversaire. Donc, la parole aussi va libérer. Et le fait de s'asseoir, de se poser, ça permet de retrouver finalement quelque chose de la vérité pour pouvoir repartir ensemble. Lorsque deux ou trois sont quelque part réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous dit le Seigneur Jésus. Être unis, être réunis. La pire des choses dans le christianisme depuis 2000 ans, c'est d'abord la division. Et la division, elle est présente dès le départ. Allez voir dans les Actes des Apôtres, Pierre et Paul ne sont pas d'accord. Et donc, c'est toujours un gros défi que de chercher cette communion, cette unité. Et on devrait être blessé intérieurement chaque fois que quelque chose va contre notre unité. Nous avons reçu le même baptême, mais parfois nous nous divisons. Nous avons reçu la même grâce par la mort du Christ sur le bois de la croix. Chacun de nos péchés a été crucifié avec lui. Par sa résurrection, nous avons désormais accès à une vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Mais comment est-ce que nous l'intégrons? Comment est-ce que nous l'assimilons? Comment est-ce que nous en vivons? Imaginez une catastrophe qui pourrait arriver ce soir. Nos frères marocains le savent. Quelque chose qui n'est pas prévu. Ce soir, voilà, une bombe atomique va arriver sur le Mans, on va tous mourir. Quelle serait notre attitude, là, tout de suite, maintenant? On ne penserait pas arroser le jardin. On se dirait, ce soir, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a tous, dans notre historique personnel, des traces de division, de choses qui ont pu nous blesser, ou qu'on a pu nous-mêmes faire et qui ont blessé. Et donc, posons-nous la question. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Est-ce que c'est d'avoir toujours raison, d'avoir toujours le dernier mot, ou aussi d'accueillir ce que l'autre va me dire, qui va peut-être aussi m'aider à grandir? L'unité, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas une unité de façade. L'unité, c'est le Christ qui nous la donne. Et chaque fois que nous recevons sa parole, cette parole, elle nous façonne intérieurement pour justement tendre vers l'unité. Chaque fois que nous recevons le pain de vie, le corps et le sang du Christ dans son Eucharistie, c'est la communion, comme une union avec le Seigneur, qui nous aide à entrer dans cette unité. Unité qui n'est pas uniformité. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Un seul Dieu, mais trois personnes. Donc c'est lui par excellence qui nous montre le chemin de l'unité dans la diversité. Alors, prenons au sérieux ce que signifie être chrétien, vivre l'unité, essayer d'être les uns et les autres davantage en communion. On a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est bien de se le dire, puis c'est bien d'avancer quand même, de prendre des chemins qui vont nous rassembler, d'essayer de, sur tel ou tel point, de progresser. Nous allons maintenant poursuivre en professant notre foi, en confiant les intentions de l'Église et du monde, et puis en offrant le sacrifice eucharistique. C'est le Christ qui est le ciment de nos vies, de baptisés. C'est lui qui va nous aider à rester unis par-delà nos différences. bien que le Seigneur Jésus nous bénisse et qu'il nous aide à choisir encore et toujours ce qui unit et ce qui rend la communion possible. Amen.